Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Barbara Pompili est notre invitée. Bonjour, on est en train de parler des épisodes Cévenol, tiens, en regardant la météo. Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Nous allons parler de beaucoup de choses, on va parler de la chasse, évidemment. Nous allons parler protection des oiseaux, des accords commerciaux avec l'Australie. Barbara Pompili, mais je voudrais commencer avec la présidentielle. Les écologistes ont voté. Yannick Jadot, 27,7. Sandrine Rousseau, 25,14. Est-ce que vous avez participé à cette élection? Vous avez voté ou pas?
Non, je n'ai pas voté à cette élection.
15 ans d'Europe Écologie Les Verts, des Verts et d'Europe Écologie Les Verts, vous auriez pu voter. 2000-2015.
Non, je suis écologiste, mais je suis une écologiste qui veut gouverner. Et ce qu'on a vu avec cette primaire, c'est que les Verts ne sont toujours pas prêts clairement à gouverner, avec des scores d'ailleurs qui sont très serrés et qui montrent qu'ils n'ont pas de leader naturel. Yannick Jadot n'a pas la dynamique qu'il pensait avoir. Et puis un score très fort de Sandrine Rousseau qui est quand même...
Qui est quoi?
Plus qu'un peu déconnecté de la réalité.
Non. Ah bon? Ça veut dire quoi, déconnecté de la réalité? La radicalité environnementale, Sandrine Rousseau?
Non, moi j'appelle ça de la déconnexion. Quand Sandrine Rousseau dit, par exemple, qu'il faut réduire la production d'électricité, c'est juste complètement déconnecté du réel. En ce moment, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre, donc on est en train de changer des process pour les passer à l'électricité, donc on va augmenter notre part d'électricité. Même si on fait des grosses économies, on augmentera notre part d'électricité, de demande d'électricité. Donc dire maintenant qu'il faut baisser la production d'électricité, c'est juste complètement irresponsable. Je crois que c'est simplement qu'elle ne sait pas.
Toute la question, c'est comment produire de l'électricité. J'y reviendrai tout à l'heure. Et avec quelle énergie, hein? Le nucléaire, le fossile, enfin bon, on va y revenir. Mais je voudrais qu'on regarde justement le programme de Sandrine Rousseau. Sortie du nucléaire, taxation carbone des entreprises, création d'un crime d'écocide, renforcer le statut juridique des animaux, interdire l'usage des pesticides de synthèse, limiter les engrais... Puis sur le terrain social, semaine de 4 jours, parité homme-femme réelle dans tous les domaines, rendre obligatoire le CV anonyme. Vous pourriez adhérer à tout ça.
Sur les aspects écolo purs, c'est ce qu'on fait. En fait, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est ce qu'on fait. Prenez-les les uns après les autres, on est en train de le faire.
Bon.
On est en train de le faire.
Donc rien de nouveau.
Non.
Alors
parce
quoi
que...
C'est une égérie du wokisme, je sais pas moi, de l'islamo-gauchisme, du néo-féminisme.
Non, c'est encore une fois. On peut avoir envie de dire qu'on est radical. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'elle dit que, en gros, tout le combat politique est un combat qui est basé sur du rapport de force, fondé sur le fait qu'il y a de la violence d'une catégorie sur les autres. Alors, bien sûr qu'il y a des violences d'une catégorie sur les autres. Mais le rôle de la politique, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Si on veut mettre en place la transition écologique, on a besoin de construire avec les autres et pas seulement contre les autres. Il faut qu'on mette les gens autour de la table, il faut qu'on aide les plus fragiles, il faut qu'on emmène tout le monde. Si on est dans un combat comme ça de rupture, à la fin on arrive aux gilets jaunes. Donc je ne crois pas à l'efficacité simplement de cette radicalité. C'est bien d'avoir de la radicalité dans la parole, c'est bien quand on est dans l'opposition, on se fait plaisir, sauf qu'à un moment, quand on met les mains dans le cambouis, quand on est dans la réalité, eh bien ça ne fonctionne pas comme
encore
ça.
Encore faut-il peser. Barbara Pompili, dans les choix du gouvernement, et vous essayez, je dis bien vous essayez de peser, pas facile, Barbara Pompili, vous avez créé un mouvement, un parti en commun, et avec plusieurs députés de la majorité, vous essayez de peser. Que demandez-vous? Je regardais hier, que demandez-vous? Des augmentations d'impôts, oui, des augmentations d'impôts. Alors quels impôts? Droits de succession, plus-value immobilière, TVA, une augmentation de la TVA d'un point, bénéfices des grandes sociétés, revenus les plus élevés. Mm-hmm. Emmanuel Macron dit de son côté, pas de hausse d'impôts. Donc voilà déjà une grosse différence. Baisse des taxes sur les carburants. Est-ce que vous demandez une baisse des taxes sur les carburants?
Vous savez, on a une présidentielle qui approche. Dans le cadre de cette présidentielle... Oui. Dans la majorité présidentielle, il y a des débats sur quelle est la suite? Comment on fait marcher la suite? Moi, je considère que notre rôle, c'est de mettre des idées sur la table, de mettre les idées au débat pour que ça puisse alimenter une campagne présidentielle. On n'est plus dans la même situation maintenant qu'en 2017. On a vécu une grosse crise et qui est encore en train de nous faire souffrir. On doit relancer la machine. On a fait un plan de relance. On va faire un plan d'investissement. Maintenant, la question, c'est comment on finance tout ça et comment on fait en sorte que ça se passe de la manière la plus équitable et socialement équitable possible.
Donc, on augmente les impôts.
Il va falloir réfléchir comment on finance tout ça. Nous, on propose des choses. On verra après ce que ça donne.
Des augmentations d'impôts assumées.
Mais assumons le fait qu'à un moment, il va bien falloir payer pour que ce ne soient pas nos enfants qui payent par la suite. Moi, vous savez, je crois que c'est très bien ce qu'on a fait sur le plan de relance.
Oui, le quoi qu'il en coûte, c'est formidable. Les plans de relance, c'est formidable.
Parce que derrière, il faut qu'on investisse et qu'on mette de l'argent, parce que l'argent qu'on met maintenant dans la transition écologique, on va créer des filières, on va créer des emplois, et donc après, ça rapportera de l'argent.
Ça, j'ai compris votre raisonnement, mais je vous repose la question, est-ce que vous demandez une baisse des taxes sur les carburants ?
Sur les carburants, je pense qu'il faut qu'on regarde comment on fait pour avoir là, je vais vous faire... C'est pas de la langue de bois.
Si.
Non, c'est pas de la langue de bois.
Si.
C'est
juste là, que vous me prévenez. C'est pas de la langue de bois parce que vous allez faire de la langue de bois.
C'est juste que là...
Je connais ça par cœur.
Je ne veux pas qu'on fasse des réponses au coup par coup parce que je pense que c'est une mauvaise chose.
Mais est-ce que vous proposez, oui ou non, la baisse des taxes sur les carburants ?
On a un sujet aujourd'hui qui est une augmentation du prix du carburant qui est due à plein de choses qui sont extérieures à la France, mais qui nécessite pour nous de trouver les meilleures mesures de pouvoir d'achat. Je crois qu'il faut que le pouvoir d'achat soit préservé dans notre pays, mais qu'en même temps, on se leurre pas. Je veux dire, les carburants, ça va continuer à être un problème pendant longtemps. C'est pour ça qu'on aide nos concitoyens à changer de voiture, à être moins dépendants. Et puis, on a le problème aussi de la hausse des coûts des énergies qui fait que nous, on a décidé là, pour la fin de l'année, de donner 100 euros aux Français pour qu'ils puissent payer leur facture d'énergie.
Ça, c'est très bien.
Et 100 euros pour tous les plus faibles.
Vous savez que les carburants... Je vous coupe encore, Barbara Pompili.
Oui,
parce que je tiens. Oui, je vous coupe parce que je tiens à avoir une réponse. Les carburants, c'est une dépense contrainte pour beaucoup de Français. Vous le savez bien. Ça augmente. Est-ce que, oui ou non, vous demandez une baisse des taxes sur les carburants? Je vais pas vous lâcher là-dessus parce que vous avez une position, je le sais. Vous voulez une baisse des taxes.
Je veux que les Français payent moins cher leur carburant. Ça fait partie des idées que je propose, mais attention. Je dis toujours attention parce que moi, ce que je veux surtout, c'est que les Français puissent avoir moins besoin de carburant par la suite. Donc, ce sont des mesures, entre des mesures temporaires et des mesures structurelles. Il peut y avoir des mesures temporaires, mais ce que je veux surtout, c'est que, à la fin, les Français puissent avoir plus de voitures électriques, puissent se déplacer autrement sans être dépendants de ces cours du pétrole que nous ne maîtrisons pas.
Alors, on va revenir sur le pétrole, Barbara Pompili. La légalisation du cannabis, vous êtes favorable aussi?
Ça fait partie des mesures qu'on veut mettre au débat, parce que quand on a
mesure sur la table.
Voilà, quand on a une mesure qui est une politique qui ne marche pas depuis des dizaines d'années, des dizaines d'années, on a une politique très dure contre les drogues et contre le cannabis, et on est les premiers consommateurs en ce qui concerne la jeunesse en Europe. Donc ça veut bien dire que ça ne marche pas. Moi, je suis très pragmatique. Ce que je souhaite, c'est qu'on trouve une solution qui fonctionne. Est-ce que la légalisation peut faire en sorte qu'on puisse réguler la consommation du cannabis, gérer mieux la question des trafics aussi, en parallèle avec ce qui est fait par mon collègue Darmanin sur la sécurité, parce qu'il faut faire les deux, je crois que ça mérite d'être posé.
La question mérite d'être posée ouvertement maintenant, par le gouvernement.
Voilà.
Bien, Barbara Pompili, la crise des sous-marins. Deux questions. La première, est-ce que la France est traitée comme un valet des Américains? Franchement, vous le ressentez comment?
Moi, ce que je considère, c'est que la France n'a pas été traitée correctement par des alliés qui sont supposés travailler avec elle. Quand on travaille ensemble, on le fait, et on le fait en se disant les choses. Il peut y avoir sur des contrats des difficultés, mais dans ces cas-là, on s'en parle. Et je crois que Jean-Yves Le Drian s'est très bien exprimé sur la question. J'ai pas grand-chose à ajouter.
Mais moi, j'ai une question à ajouter. Il y a des discussions en ce moment commerciales entre l'Union européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, des accords de libre-échange. Est-ce qu'il faut stopper ces discussions? Est-ce qu'il faut dire aux Australiens et aux Néo-Zélandais, terminer les accords de libre-échange? Les accords de libre-échange, ça veut dire de la viande australienne qui va arriver en Europe, et notamment en France,
tout à fait,
à des coûts à des coûts moindres et les éleveurs français vont en souffrir. Alors oui ou non, faut-il stopper ces discussions sur les accords de libre-échange ?
Alors c'est pareil, je ne vais pas m'exprimer à la place de mon collègue Clément Beaune, mais Clément Beaune l'a dit très clairement. Il a dit très clairement que maintenant il allait falloir regarder de très près cet accord de libre-échange et que on allait évidemment faire attention à ce que nos intérêts soient tout à fait préservés dans cet accord.
J'imagine que vous faisiez déjà attention.
On le faisait déjà, mais on avait une dynamique de partenariat. À partir du moment où cette dynamique de partenariat est clairement
remise en cause, on pourrait suspendre ces accords.
Mais ils ne sont pas en cours ces accords. Ils sont en discussion.
Oui, mais on pourrait suspendre les discussions.
Écoutez, je ne vais pas prendre la décision moi-même, mais clairement, ils sont réinterrogés. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Ils sont réinterrogés. Après, attention, il faut aussi que nous soyons responsables. Moi, j'ai un gros dossier que je suis en train de gérer avec tout le monde, c'est le dossier du changement climatique. Oui. On a des échéances internationales avec la COP26 à Glasgow, qui est une COP très importante à la suite de la COP21, où on doit tous avancer sur notre dépendance au pétrole, au charbon, etc. Évidemment, moi, je continue les négociations parce que le sujet est trop grave pour qu'on puisse se permettre d'arrêter les discussions.
Eh bien, tiens, puisque parlons de l'énergie, en deux mots, ensuite nous parlerons de la chasse. L'énergie, accord, discussion à Glasgow, la COP26, c'est en novembre, je crois, hein, Barbara Pompili. Oui. Les énergies fossiles, la Norvège, qui préparerait la fin de toute exploitation pétrolière. Avec un changement politique en Norvège. Vous imaginez, est-ce que vous demandez à Total de mettre fin à toute exploitation pétrolière ou même à toute exploration pétrolière ?
Oui, alors les choses évoluent là-dessus et c'est très bien. Vous savez, l'ennemi public numéro un, d'abord, c'est le charbon. Il faut le faire dans l'ordre. C'est la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc le charbon, on se bat là-dessus. On a réussi à obtenir du G7 que tous les pays du G7, y compris le Japon, qui était très financeur de centrales à charbon, arrêtent de financer les centrales à charbon. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après, avec la Chine notamment, et avec d'autres pays comme
l'Allemagne,
l'Australie, par exemple. Non, l'Allemagne a décidé de baisser ses consommations de charbon, et ils sont aussi, et ils arrêtent évidemment toutes les garanties export sur le charbon. Donc, l'Europe est unie.
Le charbon, c'est une chose, mais maintenant je voudrais parler du pétrole et de ce qu'il y a sous terre aussi, le pétrole, le gaz. Est-ce que Total doit mettre fin à toute exploration pétrolière ?
On a eu une déclaration du président de la République qui était intéressante à Marseille, où il a parlé notamment de l'Arctique, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux sur l'Arctique, puisque malheureusement, il y a la glace qui laisse la place à la mer, donc on peut aller forer beaucoup plus là-bas. Il a dit très clairement que sur l'Arctique, il allait falloir maintenant qu'on se mette autour de la table pour arrêter toute prospection qui pourrait être dangereuse pour l'environnement, qui pourrait porter atteinte
donc
à la biodiversité.
Total va pouvoir continuer à prospecter
Total
dans le monde.
Total a décidé de se réorienter. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils deviennent Total Energy. C'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas d'avenir dans le pétrole et dans le gaz. Et donc, ils se tournent vers les renouvelables, ce qui est une très bonne chose.
Alors, renouvelables, l'avenir. Le nucléaire peut être l'avenir. Est-ce que la France va construire 6 nouveaux EPR de petite taille ?
Alors là-dessus, on doit avoir ce fameux débat qui sort des postures. Je sais, vous avez vu que sur ces sujets,
on doit avoir ce débat, j'entends.
Des opinions.
Mais j'entends ça depuis des mois. Voilà. On doit avoir ce débat. Mais alors, quand ce débat sur ces EPR ?
Pour avoir ce débat, il faut se baser sur des faits et plus sur des postures. Je n'en peux plus des postures. Moi, mon rôle en tant que ministre de la Transition écologique, c'est deux choses. Baisser nos émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte qu'on ait un approvisionnement.
Mais je vous pose une question.
Je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Mais si vous voulez que je vous réponde et que je sorte un petit peu des postures simplissimes,
allez-y.
Que je vous réponde. On doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre et on doit assurer pour l'avenir d'avoir assez d'électricité pour pourvoir à nos besoins. Pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on est en train de décarboner. On transforme les moteurs essence en des moteurs électriques. On rénove les maisons, le chauffage, on le fait passer à l'électrique. Donc on est en train d'avoir de plus en plus d'usages électriques. Donc ça augmente notre besoin d'électricité. Et même si on fait des économies, RTE, qui sont des gens très sérieux, estiment qu'on va augmenter de 20% notre demande d'électricité d'ici 15 ans. D'ici 15 ans, D'ici 15 ans, évidemment, on n'aura pas eu le temps de construire plein de centrales nucléaires. Donc d'ici 15 ans, il faut, pour faire face à la demande, augmenter de manière très forte nos énergies renouvelables. Donc on a besoin de développer les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient.
Mais Barbara Pompili, on l'a compris. Mais moi, je vous pose une question précise.
Demandez à Xavier Bertrand, est-ce qu'il a compris qu'il fallait développer les renouvelables ? Je ne suis pas sûre.
Bon, alors, est-ce que la France va construire 6 nouveaux EPR ?
Alors là, c'est pareil. On a, donc, pour faire face à tout ce que je vous ai dit, RTE va déposer des scénarios. Il va y avoir des scénarios jusqu'à 2050 qui seront des scénarios avec plus ou moins de nucléaire où, enfin, Monsieur Bourdin, on va avoir la vérité des prix. Combien ça coûte de faire du nouveau nucléaire? Combien ça coûte de faire que du renouvelable? Quels sont les avantages, les inconvénients de chaque scénario? On aura 6 scénarios. Et ces scénarios, moi, je propose qu'ils servent de base, de débat. Et enfin, on arrêtera de débat sur le sexe des anges, ou pour savoir si oui ou non on aime ou pas le nucléaire.
Vous ne m'avez pas répondu sur ces EPR, donc la décision n'est pas prise.
Mais parce que la décision doit être prise sur des fondements, Monsieur Bourdin, qui vont sortir d'ici un mois.
Mais ça fait des mois et des années qu'on parle de cette décision que personne ne prend.
Oui, bah justement, avant de prendre une décision, il y en avait qui parlaient en l'air. Là, maintenant, on va parler sur des faits. C'est une grosse différence.
Et moratoire sur, je ne sais pas moi, sur certaines installations d'éoliennes en mer, ou pas? Non.
Pourquoi ?
Non, je ne sais pas, comme ça, parce qu'il y a des contestations partout, notamment en Baie-de-Saint-Brieuc.
Il y a des contestations et on doit y répondre en répondant sur des faits. Moi, j'ai entendu des contestations avec des inquiétudes légitimes sur la biodiversité. On a fait faire des études au CNRS, notamment sur la question du bruit. Et sur la question du bruit, le CNRS a sorti des études qui montrent que la fameuse coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc n'est pas mise en danger par le bruit.
Je termine avec les chasseurs. Alors, est-ce que vous allez autoriser provisoirement, pour un an, la chasse aux alouettes, aux grives, aux merles, aux vannes, aux huppés et aux pluviers dorés?
Mais dis donc, vous avez une grande connaissance des oiseaux.
3 chasses traditionnelles. Chasse à l'alouette, alors les pentes, vous connaissez cette chasse. La matole, vous connaissez cette chasse. Et la tenderie, qui est une chasse où on accroche l'oiseau avec un lacet. Enfin bon, vous autorisez ces chasses?
Sur les chasses, il y a encore eu des manifestations, gens qui se sont exprimés très fort. Moi, ce que j'aimerais, c'est un peu sortir par le haut de toutes ces affaires-là. Moi, je ne suis pas une ministre qui doit être pour ou contre la chasse. La chasse est une activité légale. À partir du moment où elle est légale, moi, mon seul prisme, c'est de vérifier si elle ne porte pas atteinte à la biodiversité. Quand c'est le cas, quand il y a des chasses qui ne sont pas sélectives, comme la chasse à la glu par exemple, je l'interdis. Quand il y a des problèmes de reproduction, et là, je vous fais une annonce, Monsieur Bourdin, on va interdire pour cette année, on va suspendre pour cette année la chasse au grand tétra, qui est une espèce qui est en danger et qui s'est très peu, pas assez reproduite cette année. En ce qui concerne les chasses traditionnelles, le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments juridiques pour que cette chasse soit autorisée. Donc, nous avons décidé, puisque c'est un sujet qui revient tous les ans, vous savez que ce sont des arrêtés qu'on fait tous les ans, j'ai décidé de redéposer tous les arrêtés concernant toutes les chasses que vous avez mentionnées, une par une, pour que le Conseil d'État puisse s'exprimer sur le fond, sur chaque chasse.
Avant la présidentielle.
Ah mais si.
C'est-à-dire que la chasse est autorisée en année présidentielle.
Il est fort probable, Monsieur Bourdin, que les arrêtés soient attaqués par les associations de protection de la nature. S'ils sont attaqués en référé, ce qu'on appelle le référé, le Conseil d'État va dire tout de suite, là, pas avant les présidentielles,
si le Conseil d'État renouvelle son interdiction, les chasses seront interdites.
Cette année, oui, et après, il y aura enfin, sur le fond, une décision très claire qui fera que ce sera clair d'un point de vue juridique pour tout le monde, pour les chasseurs,
pour les associations de protection de la nature. C'est une espèce menacée, le vanneau huppé.
Eh bien, on verra si les chasses auront lieu ou pas, mais une fois de plus, il faut sortir par le haut de tout cela, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Est-ce que juridiquement, ces chasses contreviennent ou pas au droit européen, puisque c'est une directive oiseau? Est-ce que oui ou non, le Conseil d'État ne s'est pas exprimé sur le fond. Il a juste dit qu'il fallait plus d'arguments juridiques, on les a mis sur la table, et encore une fois, les choses seront plus claires l'année prochaine. Mon successeur encore l'année prochaine n'aura plus cette question-là
c'est-à-dire,
à gérer.
C'est bien ce que je disais, Barbara
Pompili.
C'est vrai que l'année prochaine, ce sera plus clair. En attendant, on chassera en année présidentielle.
On verra ce que donne le référé, monsieur Bourdin.
Alain Bougrain-Dubourg dit « La biodiversité est réduite à une monnaie d'échange électoraliste ».
La biodiversité n'est surtout pas réduite à une monnaie d'échange. Sur ces sujets, il y a débat. Je rappelle que ces chasses sont des chasses qui sont des chasses justement avec des filets, avec des cages, sur des animaux qui sont déjà chassés au fusil par ailleurs. Donc là, on ne parle pas de la chasse au fusil, on parle de la chasse avec ces outils-là. Mais quand il y a un vrai risque pour la biodiversité, comme je vous l'ai dit, pour le grand tétras, comme je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit, mais on a aussi suspendu la tourterelle des bois, on a évidemment arrêté la chasse à la glu. Quand il y a un risque sûr, on arrête. On arrête et on suspend la chasse. Et c'est ce qu'on est en train de faire cette année. Sur ces chasses-là, il y a débat. Il y a débat juridique. Le débat juridique sera tranché par le Conseil d'État très vite.
Merci Barbara Pompili. 8h54, vous êtes sur RMC BFM TV.